I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce à Maison Seconde. Ce site internet est absolument génial. C'est l'unique vide-dressing des vêtements portés par vos influenceuses préférées. Vous pourrez y trouver de véritables trésors, comme des pièces portées par la célèbre Noolita, mais aussi par les belles Doris Blampin, Marie-Luf Pink et d'autres personnalités influentes sur les réseaux sociaux, et ce à des prix plutôt canons. Ces filles, comme vous le savez, font beaucoup de shopping, reçoivent aussi beaucoup de cadeaux de marque. Plutôt sympa. Et leur dressing déborde. Vous rêvez de fringues, d'un sac ou de chaussures de marque à petit prix? Alors rendez-vous sur www.maisonseconde.com. C'est surtout un bon plan pour donner une seconde vie aux vêtements et une autre façon de faire de bonnes affaires. Et comme votre podcast préféré soutient ce beau projet, grâce au code Chiffon, vous pourrez bénéficier de 20% de réduction sur votre commande. Et autre bonne nouvelle, l'épisode que vous allez entendre est aussi disponible sur le site du magazine Grazia, nouveau partenaire de Chiffon. Vous pourrez y retrouver l'épisode, mais aussi le portrait de mon invité du jour et quelques anecdotes sur l'enregistrement. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon? Robe ou smoking? Mini-jupe ou jupe midi? Talons ou basket? Et vous, messieurs, plutôt costume 3 pièces ou t-shirt et jean? Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime? Et qu'est-ce que l'élégance? Alors vous, Gabriel, qu'en pensez-vous?
Une définition de l'élégance. Au moment où c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à rencontrer une Française qui vit à Montréal depuis 2013. Laure a 30 ans, elle travaille pour les services sociaux à l'enfance et à l'adolescence. Pour elle, les vêtements et le style, c'est avant tout une histoire de famille. Et vivre à Montréal, qu'elle qualifie de ville aussi hétéroclite que métissée, a changé sa façon de s'habiller. C'est pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus sur nos cousins canadiens, et pour Laure, de parler de son style, qui pour elle est une chose qui relève de l'intime. Bonjour Laure.
Bonjour Valérie.
Alors, comment as-tu atterri au Canada?
Alors, c'était un petit peu sur un coup de tête, ou plutôt je dirais sur un coup de cœur. En fait, donc je vivais à Paris depuis quelques années, puis j'ai rencontré un garçon en 2012, que j'ai incité à partir pour suivre son rêve au Canada.
Lui, il est français ?
Il est français, oui, tout à fait. Il travaille dans les jeux vidéo et puis il voulait vraiment partir pour travailler pour les jeux vidéo, soit aux États-Unis, soit au Canada. Et puis finalement, il a réussi à dégoter un travail à Montréal. Et moi, à ce moment-là, je me prédestinais plutôt à rester sur Paris et puis à aussi poursuivre une carrière en restauration du patrimoine, mais au Japon. Puisque
ah oui,
juste avant de partir,
opposé, là.
Oui, c'était vraiment aux opposés. Et en fait, juste avant de partir pour immigrer à Montréal, j'étais partie pour faire un stage de 3 mois à Kyoto pour faire de la restauration d'art asiatique. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était l'homme de ma vie.
Et je l'amour lui ai dit, l'a emporté, en fait.
Exactement. Et donc, je lui ai dit, est-ce que je peux venir?
Et tu m'as écrit un long mail.
Oui.
Pour me raconter ta relation aux vêtements. Et dans ce mail, tu me parles beaucoup de tes parents. Et c'est ce qui m'a interpellée.
Oui.
Tu es la dernière d'une lignée de 3 filles. Et tu me dis que tes sœurs ont chacune un style unique. Alors, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors déjà...
Elles sont plus âgées que toi.
Elles sont beaucoup plus âgées que moi, c'est ça. Elles sont nées en 72 et en 75. Moi, je suis née en 87. Donc, moi, je les ai connues quand... Enfin, les souvenirs réels que j'ai d'elle, c'était elle adolescente, donc au lycée.
Et toi, petite fille.
Petite fille. Et donc, je les adulais, évidemment. Et c'est vrai qu'elles avaient un style quand même assez... assez unique. Oui, pour moi, c'était vraiment unique. Elles étaient... alors, j'ai deux sœurs, donc c'est Sophie et Claire. Sophie, elle, avait plutôt un style un petit peu... campagne, chemise cacharelle avec un jean Levi's taille haute.
C'est ma génération, donc c'est tout à fait le style de l'époque, avec le pull Benetton, j'imagine.
Oh oui, c'était ça. Alors je me rappelle qu'elle portait un poncho indien et puis des camarguaises. Mm-hmm. Puis mon autre sœur, elle, c'était le même jean, mais avec des t-shirts un petit peu plus grunge, une veste en cuir et puis des Santiago. Et ma sœur, je l'ai toujours connue en Santiago. Bon, maintenant, elle a plus ce style-là. Mais quand je pense à leur style, c'est vraiment cette image-là que j'ai, elle, sur les photos de classe au lycée dans les années 90. Quoi.
Et tu as grandi en région parisienne ?
Non.
Ah, parce que...
Alors, mes parents sont à la base de région parisienne. Mes parents et mes sœurs, oui, ils ont vécu jusqu'en 87 en région parisienne. Et puis, quand moi je suis née, ils sont partis vivre dans le sud de la France.
Alors, on va en reparler de ça.
C'est ça.
Tu as grandi dans une famille plutôt ouvrière, ce que tu me dis.
Alors, ouvrière, en fait, mes parents étaient issus de milieux ouvriers. Mm-hmm. Et dans la vision que j'ai d'eux, ce sont des personnes qui ont voulu s'affranchir, en fait.
C'est exactement ce que j'allais relever. Je vais citer, si tu me permets, ce
oui,
que
oui,
tu
bien
m'as
sûr.
Écrit. Mes parents ont eu la volonté de s'affranchir de cet environnement trop étriqué pour eux, et cela s'est traduit en partie par leur style vestimentaire.
Ouais.
Qu'est-ce que tu entends par volonté de s'affranchir de cet environnement trop étriqué ? C'était l'environnement banlieusard et ouvrier ou
Oui, mon père, lui, vient vraiment d'un milieu plus ouvrier urbain. Ma mère, elle, c'est plutôt campagne. Donc, ils étaient tous les deux dans l'Oise. Et c'est vrai que ma mère a toujours souhaité s'affranchir. C'est ça, c'est vraiment le mot pour d'un côté un peu campagnard et pas bouseux, mais parce que c'est pas le cas. Enfin, les
c'est
gens,
assez péjoratif en
c'est
plus.
C'est très péjoratif. Mmh. Mais pour elle, il y avait quand même. Elle voulait vraiment oui. se détacher de ça.
Tu me disais que dans les années 60, elle détonnait par son look en fait,
ouais,
où elle vivait.
Oui, bah oui, parce qu'elle vivait dans un petit village et puis elle avait plutôt tendance à vouloir s'habiller, à venir à Paris pour s'acheter des vêtements et puis s'habiller plutôt avec des mini-jupes, des couleurs un petit peu plus flashy.
Alors, et ton père, lui, elle est troquée ses costumes au Puce de Saint-Ouen pour sortir dans les boîtes de nuit parisiennes.
Oui, alors ça, c'était... J'ai vraiment beaucoup aimé lorsque mon père me racontait sa jeunesse dans les quartiers de Paris. Il sortait avec, il me disait, des bourgeoises du 16e qui voulaient l'épouser parce qu'il était super beau. Et il était vraiment très beau. Et donc, ouais, il avait un style vestimentaire assez, assez classe. En fait, il voulait vraiment... Mon père était très très sombre de peau, presque noir, un peu réunionnais, tu mm-hmm. vois, un peu ce style-là. Et donc, il a voulu se rendre un petit peu plus chic, un petit peu plus dandy mm-hmm. pour se faire accepter, en fait.
Parce qu'il était de couleur métissée ?
Oui. Et en fait, si tu veux, pour résumer, j'ai un peu l'impression que mon père a toujours eu peur du racisme et ma mère a toujours eu peur de faire pecno.
D'accord.
Tu vois ?
Et ça, c'est dans les années 70.
70, ouais.
70.
Ouais.
C'est très, très fort ce que tu dis là, en fait.
Oui, mais mes parents, avec plus de recul, en m'en parlant, je pense qu'ils s'en sont rendus compte et ils me l'ont dit quasiment dans ces termes-là.
Mais il y avait une souffrance de leur part, tu crois ? Ou c'était une volonté de s'affranchir vraiment de ce qu'ils étaient ou d'éviter le regard des autres ?
Éviter le regard des autres, je ne pense pas, mais vraiment de se couper de leur famille, même c'est même une des raisons pour lesquelles ils sont partis de la région parisienne.
Donc toi, tu me dis que tu as bénéficié de l'ascenseur social de ta famille, finalement,
oui.
Quand tu es partie vivre dans le sud. Mm-hmm. Qu'entends-tu par là ? Vous êtes partie où d'ailleurs, dans le sud ?
Dans le Var. Et c'est vrai que mon père était d'abord commercial et il a très rapidement réussi à devenir... il était directeur marketing chez Total, en fait.
D'accord. Bah, c'est pour ça que tu me disais que tu l'as toujours connu avec des très beaux costumes de marque.
Ah oui. Ouais. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai bénéficié d'un ascenseur social. C'est surtout comparativement à ce que mes sœurs ont vécu. Parce que mes parents, quand ils les ont eus, c'était dans les années 70. Mmh. C'était un petit peu plus galère. Donc, moi, je n'ai pas vécu ça. Le fait de faire attention, de ne pas avoir de jouets, ce genre de choses, tu vois.
Mais c'est vraiment ce qui m'a touchée dans ton témoignage, c'est le poids de la famille sur la façon de se vêtir, finalement. Ouais. Parce que toi, ça a vraiment eu un impact.
Oui.
Et tu as baigné aussi avec ça. Tu m'écris, le vêtement a toujours été très important pour eux, et encore plus le style, c'est-à-dire
Comment dire c'était très important pour eux qu'on ait vraiment une personnalité dans notre style.
Oui, tu m'en parles, tu dis qu'ils t'ont éduqué d'ailleurs à cela.
Ouais, bah, plus ou moins. Après, je veux pas non plus mettre des mots dans leur bouche qu'ils n'ont pas dit. Non, ça a toujours été quand même très important. Tu vois, par exemple, mes sœurs, elles n'étaient pas habillées chez Jacques Eddy. Moi, j'étais habillée chez Jacques Eddy. Enfin, c'était... C'est comme si qu'ils voulaient projeter une image un petit peu plus bourgeoise, en fait.
Pour eux, le vêtement est un marqueur. Était vraiment un marqueur social,
pour
le coup.
Ah oui, complètement. Ouais, complètement, ouais.
Et pour toi, est-ce que ça veut dire quelque chose ?
Pour moi, c'est pas un marqueur social. Je pense pas que ça ait cours maintenant. À l'époque, ça avait peut-être un impact. Et encore, à l'heure actuelle, non, ça ne signifie pas autant de choses pour moi.
Toi, tu as une véritable passion pour l'ancien temps.
Ouais.
À 10 ans, tu collectionnais des revues des années 20. Tu redessinais les illustrations de Georges Le Pape dans Vogue et aussi les robes de Jean Patou. Pourquoi cette fascination pour l'ancien ? Toute petite déjà. Hein.
Alors, j'y ai pensé. Et en fait, quand j'étais petite, j'étais un petit peu rondouillette et j'avais les cheveux frisés. Et donc, en fait, pour moi, les femmes que je voyais dans les magazines des années 30, elles avaient, ou même sur les cartes postales que je collectionnais, elles avaient les cheveux crantés, elles avaient plus de rondeur. Et en fait, j'arrivais à m'identifier à elles physiquement. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a joué un rôle. Après, le style m'a toujours plu. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est vraiment une attirance, je voudrais pas dire innée, mais presque.
Et la Laure d'aujourd'hui ? Tu me dis une très belle chose en parlant de toi. Après quelques déambulations vestimentaires, j'ai retrouvé la Laure des 10-11 ans qui s'en fichait si elle sortait du lot. Alors quel est ton style aujourd'hui ?
Je dirais qu'il est féminin, mais pas sexy. Vintage, c'est sûr.
Avec ça, toujours on va en reparler.
Avec toujours un petit twist, j'essaie de faire toujours un petit twist rock'n'roll. Pas premier degré, ça c'est sûr.
Qu'est-ce que tu entends par pas premier degré ?
Que ça fasse pas trop dans un style, en fait.
Trop vintage.
Oui, trop vintage, ça me plaît pas.
Là, tu portes une chemise Lavalière des années 70.
Oui, oui, c'est ça. C'est, je pense, ma chemise préférée. Mais je la porte avec...
Un jean.
Avec un jean et puis des boots modernes. Donc non, je vais pas aller dans le total look, ça c'est sûr.
Mais alors déjà, à 10-11 ans, t'aimais sortir du lot. Comment
oui.
T'étais à 10-11 ans ?
Alors, à 10-11 ans, j'avais des Doc Martens en velours avec des collants dorés.
À 10 ans ?
Ouais, avec des collants dorés à carreaux écossais jaunes et des robes chasubles en velours vert sapin, un peu comme le pull que tu portes d'ailleurs. Donc c'était ce style-là.
Ça devait dénoter quand même, parce que j'imagine qu'à 10-11 ans, les enfants ne font pas de cadeaux. Ils se font pas de cadeaux entre eux. Toi, t'avais pas des remarques ?
Non, parce qu'en fait, donc j'ai grandi dans le sud de la France et les gens s'habillaient d'une manière assez colorée, en fait. Et je me rappelle même mes maîtresses d'école, elles avaient des robes de toutes les couleurs. Et ça n'a jamais été un sujet de moquerie pour me concernant, en tout cas.
Ouais. Tu trouves qu'on s'habille d'une manière plus colorée dans le sud qu'à Paris, par exemple ?
À l'époque, c'était ce que je pensais, parce qu'après, nous, on est monté vivre sur Versailles, et ça m'a tout de suite semblé
changé.
Ouais, ça m'a semblé tout de suite plus contrasté. Enfin, le contraste était flagrant, c'était beaucoup plus sombre en région parisienne.
Plus codé aussi, Versailles,
oui,
j'imagine.
Totalement.
Et ça, c'était quand tu étais adolescente?
C'était les deux premières années de collège, donc 6e et 5e.
Et comment tu as vécu cette transition? Tu as continué à être la Laure qui s'en fichait, ou là, tu as commencé à faire attention au point de vue des Versaillais?
Au début, tu sais, j'avais toujours un petit côté un petit peu baisse-beige, quoi qu'il arrive, par ma mère. Donc, ça allait, tu vois, les robes chasubles à carreaux, ça passait très bien avec un petit chemisier en dessous.
Peut-être pas avec les docks, quand même.
Non, non, par contre, mon père m'avait acheté des Doc Martens à boucle qui étaient basses. Mm-hmm. Donc, ça faisait un petit peu chaussures de petit garçon. Enfin, c'était très, très classique, quoi.
Alors, l'arrivée au Canada a aussi eu un impact sur ta façon de t'habiller, d'après ce que tu me racontes. Et c'est là que tu as enfin grandi, je te cite. Hein. Par manque de moyens d'abord, et puis par prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Canada?
Alors, au Canada, déjà, je pense que tout le monde le sait, mais les températures sont quand même extrêmes.
Oui, j'ai une question sur le sujet.
Donc, quoi qu'il arrive, tu regardes la météo pour te vêtir. T'es obligé de faire en fonction de ça. Et puis quand je suis arrivée donc au Canada, j'ai découvert les charity shops. Et puis comme j'avais pas de travail en arrivant, fallait bien que je m'habille avec un peu les moyens du bord. Donc de m'habiller dans des friperies, ça m'a permis de plus m'amuser avec les vêtements, de me permettre plus de choses, et donc de ce fait-là. D'assumer mon style, en fait, et de vraiment mieux le créer.
Et ton amour de l'ancien.
En plus, ouais.
Il y en a beaucoup plus qu'à Montréal qu'à Paris, des friperies?
Il y a beaucoup de charity shops, plus que de friperies qui sont vraiment... qui sont plus sélectives. Il y en a quand même beaucoup, et puis il y a beaucoup de choix, et puis c'est vraiment très peu cher.
Ouais, par rapport à Paris?
Oui. Ah oui, complètement.
Et le coût de la vie au Canada est comment?
Il est proportionnel au salaire. C'est beaucoup moins élevé qu'à Paris, ça c'est sûr, et qu'en France.
Et même une moindre marque de fringues, de créateurs, on n'est pas du tout comme en France?
Ça va. Moi, j'avoue que j'attends quand même les soldes pour m'offrir des pièces de créateurs locaux. Ouais.
Alors justement, tu dis que tu achètes des pièces neuves, mais que chez des créateurs éco-responsables ou locaux?
Oui.
Mais ce n'est pas facile. Alors pourquoi ce n'est pas facile? Parce que c'est plus cher?
Parce que c'est plus cher, c'est sûr. Et puis, par exemple, là, je cherche encore des jeans, par exemple.
Pourquoi?
J'ai du mal à trouver des jeans.
Tu n'as pas trouvé le jean de ta vie?
Non, pas encore.
Pourtant, avec la proximité avec les États-Unis, on peut imaginer que vous avez des marques plus accessibles qu'ici.
Oui, alors après au Québec c'est assez particulier parce que les importations sont plus restreintes que par exemple en Canada anglophone. Mm-hmm. Parce qu'il y a des restrictions au niveau de la langue. Donc si les marques ne font pas leur promotion en français, ça ne passera pas.
Pourquoi? C'est culturel ou c'est vraiment économique?
Il y a des lois pour ça.
Ah, il y a des lois
pour
ça. Pour protéger en fait
la
langue française au Québec. Tu me dis aussi que tu ne tiens plus compte des tailles imposées dans la grande distribution. Qu'est-ce que tu entends par là?
Ben ça, c'est en m'habillant vintage, justement, parce que un vieux 38 sera un 36 d'aujourd'hui, admettons, pour certains modèles. Après, sinon, oui, c'est ça, je ne vais pas regarder. Si je vois un chemisier qui me plaît, peu importe la taille, je vais l'essayer, je vais le faire blouser dans mon jean, et puis je m'en fiche. Non, les tailles, ça n'a plus aucune importance. Et puis même quand on voit après des marques qui vont faire des 38 qui en fait sont des 34, des trucs complètement aberrants, non, là, c'est pour ça que je me suis affranchie des tailles, qui pour moi à un moment étaient très importantes. Donc là maintenant, c'est fini.
Pourquoi c'était important?
Bah, le chiffre, quand t'es ado.
Oui, il y a un cap à ne pas passer.
C'est ça.
Tu trouves que les Canadiens ont une relation plus raisonnable et raisonnée à la mode?
Étant donné que, par exemple, pour l'hiver, il faut vraiment s'équiper. Et quand tu t'équipes, tu payes cher ton équipement. C'est-à-dire manteau, bottes d'hiver, ce genre de choses. Ça coûte quand même un certain prix. Donc, je pense que les gens font quand même plus attention. Beaucoup de monde vont acheter en friperie, ça c'est sûr. Et il me semble que... les gens ont quand même tendance à privilégier le local. Je vois, parmi mes collègues, il y en a beaucoup qui s'habillent chez des créatrices québécoises. Elles vont attendre la grande braderie de la mode de Montréal pour aller s'offrir des pièces, ce genre de choses. Ça va être moins, moins H&M et tout ça.
Oui, après, là-bas, c'est moins fast fashion.
Ça reste quand même... je pense que les gens s'habillent quand même beaucoup chez eux, enfin, chez ces marques-là. Mais après, tu vas avoir... que je dise pas de bêtises, peut-être un H&M à Montréal.
Ah oui, quand même, un seul.
Un seul en centre-ville. Après, en périphérie, là où il y a des centres commerciaux, tu vas en trouver. Mais si tu restes, si t'as pas de voiture et que tu restes dans Montréal, dans le centre-ville, il va y avoir un seul Zara. Mango a fermé. Il y a un H&M. Et puis, je sais pas, il y a un petit côté un peu rebelle chez les Montréalais, par exemple, les Starbucks ferment à tour de bras, par exemple.
C'est vrai.
Et ils vendent chez les petits cafés locaux. Ouais.
Donc, il y a une vraie prise de conscience, quand même, pour protéger l'économie locale.
Ouais.
Alors, quand on pense Canada, on pense chemise à carreaux, est-ce vrai?
Ouais.
C'est vrai?
Ouais. Ouais, ouais.
C'est plus par confort, hein, ou c'est vraiment une culture locale?
Je pense que... c'est des chemises qui sont quand même chaudes. T'en trouves pas mal en friperie. Et puis pour le style. Les hipsters, ils aiment ça.
Et toi, là-bas, quand t'es arrivée, est-ce qu'on t'a vue comme la Parisienne ou alors pas du tout?
Pas tant. Non, pas tant. Après, j'ai pas forcément un style qui soit ce que l'on estime être le style de la Parisienne.
Ouais, mais peu importe le style. Généralement, comme moi, quand j'interviewe des expats ou des filles comme ça, elles me disent que dès qu'elles arrivent, on dit waouh,
ah non,
Paris, la France, la Parisienne, la baguette de pain, le béret, la marinière. Toi, t'as jamais sorti ça?
Non, et en fait, j'ai eu un déclic. En fait, ce qu'il y a, c'est que Montréal a été un peu envahi par les Parisiens. Les Français. Enfin, les Français, après...
Je crois qu'ils ont restreint, d'ailleurs, l'arrivée des Français, maintenant.
Ils ont restreint les quotas pour les nouveaux arrivants, ouais. Mais bon, après, ils font pas mal l'amalgame français-parisien. Enfin, ça se mélange.
Bien sûr.
Donc, peu importe que tu viennes de Paris ou de Lyon ou que sais-je, ils sont quand même... Il n'y a pas de racisme ni quoi que ce soit, mais... Ils envoient l'appel des Français. Donc, c'est plus « Oh my God, you're French !» Non, et puis en plus, on parle français.
Ouais. Donc, et ils te le disent comment, avec l'accent québécois?
Je ne sais pas faire l'accent québécois. Mon mec aurait pu le faire, mais pas moi.
Quel est le vêtement qu'on ne verra jamais dans ta garde-robe?
Alors, on ne verra jamais quelque chose d'asymétrique et de fluo.
Fluo.
Fluo, le fluo, j'aime pas ça. Et puis le plastique transparent, c'est pareil.
Et d'ailleurs, mais quand je reviens à la neige, parce que moi, je vous admire. Comment tu fais pour vivre dans une ville où il neige quand même la moitié de l'année, si ce n'est les trois quarts? Pour se fringuer, c'est pas évident d'être original.
Non. Alors, la routine, en fait, qui s'installe quand t'es dans le plein hiver où il fait moins 30 le matin, moins 35. Mm-hmm. Moi, je vais bosser à pied et j'ai une demi-heure de marche.
Mm-hmm. Mais, je t'admire.
Ouais, mais en fait, c'est pas... alors déjà, c'est pas un froid aussi humide qu'ici.
C'est un froid sec.
C'est un froid excessivement sec. Donc, en fait, c'est moins agressif. Et puis, quand tu marches dans la neige, tu te chauffes. Donc, en fait, au final, t'as pas froid. Donc j'ai appris à moins me couvrir et c'est ça en fait, quand tu arrives au travail, tu te déchausses, tu changes de chaussures. Moi j'ai 2-3 paires de chaussures à mon bureau, tu vois. Donc au moins je peux changer, avoir une paire de talons si je suis en robe, ce genre de choses. Et puis pareil, après bon, il y a des erreurs que je fais plus, comme mettre un collant sous mon jean, ça c'est non.
Pourquoi?
Je mets des guêtres par-dessus mes jeans.
Mais
parce que c'est inconfortable.
C'est inconfortable.
C'est inconfortable et puis finalement c'est trop chaud. Et mais comme je disais à mon mec ou à des amis, j'ai l'impression que notre corps s'est habitué en fait au froid et maintenant ça devient un peu moins pénible en fait, on est moins frileux. Mais par contre les hivers se sont radoucis. Mais bon, on n'est pas là pour parler de météo.
Non, non, mais c'est très, très intéressant, justement. Est-ce que une question qui me vient comme ça, est-ce que tu te verrais revenir en France maintenant?
Non. Non, non, non. En fait, j'ai la résidence permanente au Canada.
Comment on fait pour l'avoir? Ça peut intéresser des auditeurs.
Alors, pour avoir la résidence permanente, il faut, faut plus ou moins avoir déjà un travail sur place. Donc si on arrive avec un permis vacances-travail, je crois que maintenant la durée est 2 ans. C'est plus facile pour faire une demande de résidence permanente. Faut quand même avoir un emploi et puis il faut savoir que ça coûte très cher. C'est 2 500 $ par personne.
Et qu'on demande avant, c'est ça?
Il faut avoir cet argent-là, il faut pouvoir payer en fait ce permis, quoi. Donc après, il y a beaucoup de démarches administratives à remplir avec différentes étapes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les délais sont très longs. Mm-hmm. Donc faut quand même prendre ça en compte. Je sais que certaines personnes ont été obligées de rentrer en France pour, en attendant de recevoir leur carte pour pouvoir retourner au Canada et rester. Donc c'est quand même un parcours du combattant, si on veut.
Et comment expliques-tu cet attrait pour le Canada ?
C'est ce que j'ai expliqué à ma meilleure amie qui m'héberge là actuellement à Paris. C'est qu'on a une qualité de vie hors pair. Et elle m'a demandé de l'expliquer justement. Et ne serait-ce que par exemple les horaires que l'on fait au travail. Par exemple, les heures supplémentaires sont plus ou moins mal vues et considérées comme contre-productives. En fait, si tu ne peux pas justifier tes heures supplémentaires, c'est que tu n'es pas performant à ton travail. Donc, c'est ça.
Donc, il faudra en prendre de la graine de ça en France. Hein.
Oui, je pense, oui. Et bon, moi, mon copain travaille dans l'industrie du jeu vidéo, donc c'est quand même des grosses journées, mais c'est pas jusqu'à 19h. C'est exceptionnel si c'est jusqu'à 19h.
Quelle est, toi, ta journée type ?
Moi, je fais 8h-15h30.
8h-15h30 ?
Ouais.
Mais là, tu nous vends du rêve.
Ah, je suis désolée.
C'est une courante là-bas, en fait.
Alors moi,
ça te permet d'avoir une deuxième journée après.
Exactement. Alors moi, je suis fonctionnaire, donc les horaires sont ce qu'ils sont. Je ne suis pas dans une société ou une banque. Voilà, c'est ça, non. J'ai des amis qui font de plus grosses journées que moi.
Alors, on va revenir au look.
Oui.
Justement, toi qui es fonctionnaire, est-ce que là-bas, c'est pareil, est-ce qu'il y a des codes vestimentaires ? Quand tu t'habilles dans une, quand tu travailles dans une banque ou dans une agence de pub ou autre, est-ce que ou pas du tout?
Alors j'ai travaillé dans une banque au tout début où je suis arrivée à Montréal et effectivement il fallait, c'était pas le jean quoi, ouais. Il fallait pas s'habiller en jean. Ça, d'ailleurs c'est un épisode que j'ai assez mal supporté parce que le vêtement corpo c'était pas possible. Après, j'ai des amis qui travaillent dans la banque, donc ils sont en costume. Le vendredi, ils peuvent se mettre en jean, par exemple. Ouais, c'est ça. Après, sinon, globalement, moi, là où je travaille, je peux m'habiller comme je veux. Typiquement, je suis habillée comme je le suis aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Mais après, je travaille dans un programme qui enfin, tu sais, dans les services sociaux, en fait, au final, tu peux t'habiller un petit peu comme tu veux. Puis les gens sont très rock'n'roll à Montréal.
Très rock'n'roll. Alors, ouais. Toi, t'es plutôt jupe ou pantalon ?
J'aime beaucoup porter des jupes, surtout en hiver, avec des beaux collants.
Ah oui, alors en hiver, avec la neige, tu portes des jupes.
Ah oui.
Jupe mini ou jupe midi ?
Mini en hiver et très longue en été.
Mais alors, mini avec 2 douzaines de collants ?
Alors, je mets une grosse paire de collants et puis des guêtres par-dessus, qui montent jusqu'à mi-cuisse quand même.
Es-tu tote bag ou tote bag ?
Tote bag, parce que c'est pratique, surtout quand on va dans des concerts ou quand on sort et qu'on doit faire des courses. Alors, les sacs plastiques sont interdits depuis le 1er janvier à Montréal, enfin au Canada.
Donc, tu es obligé d'avoir ton tote bag pour faire les courses. Ouais. Est-ce que le heat bag a une signification là-bas ? Est-ce que les filles tripent comme nous sur les sacs Chanel, les sacs Saint Laurent, les sacs Dior ou pas du tout ? C'est pas dans la culture ?
J'en vois très rarement. C'est vrai qu'à Paris, par exemple, on verra plus souvent des sacs griffés, je pense. Après, les marques ne sont pas les mêmes. Et puis, je pense que les femmes vont plus vers de l'accessible. Tu vois, elles vont prendre du Marc by Marc Jacobs, ce genre de sacs-là, qui sont beaucoup moins chers qu'un Saint-Laurent, par
plus
exemple.
Des entrées de gamme plus accessibles, oui. En fait. Quel est pour toi le pire fashion faux pas pour une femme ?
De se vêtir avec quelque chose qui la fait se sentir mal dans sa peau. Ça se voit tout de suite. Si la personne se sent déguisée, ça se voit tout de suite.
Toi, tu le sens tout de suite ?
Ah oui.
Et ça, c'est peut-être dû à l'éducation que tu as eue avec tes parents, non ?
Alors, c'est rigolo parce que Ben, je n'osais pas reparler de mes parents, mais...
Mais si, on peut tout dire dans le chiffon.
En fait, alors, mon père avait quand même un style vestimentaire très, très fort, et il a un petit peu éteint le style de ma mère. En fait, il l'a un petit peu habillé. Donc, pendant de très nombreuses années, j'ai vu ma mère déguisée, entre guillemets, et elle était dans un style qui ne lui correspondait pas du tout, et elle le dit maintenant, elle le sait très bien.
Elle qui était fantaisiste quand elle était jeune.
Voilà, c'est ça. Et elle n'était pas sophistiquée du tout. Et puis lui, il aimait une femme sophistiquée, cheveux brochés. Et puis, limite en tailleur-jupe, quoi.
Donc, et toi, si ton copain te demande de te mettre en tailleur-jupe demain avec des hauts talons ou le boutin de 12 cm ?
Oh, il ne le fera jamais.
Quel est ton dernier achat ?
Alors, mon dernier achat, bah, c'était donc ici à Paris. J'ai acheté... une veste de kimono courte, rouge, en soie, avec des impressions d'éventail.
Mais c'était dans une petite boutique
Dans une friperie.
Une friperie aussi.
Oui, c'était chez Kili Watch.
Kili Watch, oui.
Oui, Kili Watch Collection, je ne sais plus trop où est-ce que c'était, mais c'était là.
Est-ce que tu continues à regarder un peu ce qui se passe du côté des marques françaises ?
Oui. Alors oui. Et je vais dire tout de suite pourquoi, parce que j'écoute des podcasts français, donc Chiffon, Génération XX, ces podcasts-là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui...
Avec des jeunes créateurs.
Hein. Qui ressortent, oui. Beaucoup de marques que je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert Balzac Paris, je ne connaissais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Sœur. Aussi, alors ça j'adore, c'est les cols, là, les petits cols et les manchettes.
71 bis. Oh,
le gros
Nous
coup de cœur.
Nous embrassons Périne.
Gros coup de cœur, franchement. Donc, je continue de regarder ce qui se fait du côté de la France. Mais après, je regarde aussi beaucoup les créateurs montréalais.
Mais tu me disais que finalement, l'inspiration, tu la trouves pas tellement sur les réseaux sociaux.
Non. Non, je suis assez discrète en fait sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'utilise Instagram essentiellement pour publier des illustrations que je fais. Après, j'arrive pas, par exemple, me prendre en photo mes vêtements ou ce genre de truc. J'y ai pensé, mon mec m'a dit, tu devrais le faire quand même, c'est quand même cool et puis c'est pertinent avec ce que tu fais, avec ce que tu crées. J'y arrive pas.
Non.
J'y arrive pas, j'ai essayé de me prendre en demi-selfie, comme ça, à chaque fois je fais tomber mon téléphone.
Pourquoi ?
C'est
parce
vraiment
que
pas possible.
Tu ne te plais pas en photo ou c'est... t'as pas envie de te mettre en avant
Non, le geste, et puis c'est trop de boulot pour un truc qui ne m'intéresse pas tant que ça.
Et sinon, est-ce que tu regardes Instagram ou les sites internet ou les blogs pour trouver des styles
Non, je regarde pas mal YouTube. Donc c'est vrai qu'il y a des youtubeuses qui ont un style qui me plaît beaucoup. Après, ça ne va pas foncièrement impacter ma manière de m'habiller, mais ça va me servir d'inspiration. Est-ce que tu veux que je cite des noms ?
Oui, bien sûr.
Il y a une américaine qui s'appelle B. Jones Style. Et elle, c'est une chaîne vraiment axée vintage. Mm-hmm. Alors tu la vois qui s'habille sur une semaine. Alors comment elle agence ses vêtements et tout ça.
Connais,
tu connais.
Ouais.
Et en fait, ça m'a un peu fait un genre de déclic quand je l'ai vue. Parce qu'elle dit let's play dress up. Et c'est génial en fait.
Mais il faut s'amuser.
Il faut s'amuser avec ses vêtements et puis limite se déguiser, se trouver un personnage pour sa journée. Bon, j'appréhende pas la mode comme ça et puis dans mes journées, je prends pas non plus tant le temps. Mais je trouve ça trop bien quoi.
Mm-hmm. Justement, tu cites la mode. Que penses-tu de l'expression être à la mode ?
Ça veut plus franchement dire quoi que ce soit, je pense, parce que ce qui est mis en avant. Que ce soit dans les magazines ou dans les médias sociaux, tout ça, c'est d'être unique, en fait. Donc, finalement, chacun se crée son style, même si, bon, j'imagine qu'il y a quand même...
Pourtant, on vit dans une période où il y a une certaine uniformisation ambiante.
Ouais. Ouais, mais tu vois, par exemple, les personnes qui vont être comme considérées pointues vont, on va dire, ouais, elle s'assume à fond, elle a un style vraiment unique. Il y a presque une forme de respect, ça, tu vois.
Est-ce que tu peux relier ça à l'élégance ? Quelle est ta définition de l'élégance, justement ?
Alors, ma définition de l'élégance... Alors, quand je pense à élégance, je pense à délicatesse, que ce soit dans sa manière d'être, une délicatesse pour soi et envers les autres.
C'est joliment dit.
Je pense aussi à une certaine légèreté, en fait, quelque chose qui n'a pas de lourdeur. C'est assez évanescent, en fait, pour moi, l'élégance, presque un instant de grâce, en fait. C'est pas forcément, on n'est pas forcément élégant tout le temps. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient vraiment élégantes dans l'absolu. Ça vient avec le rapport aux autres, ça c'est clair. Mais ça, il y a un moment où on va être bien, où on va être très ouvert sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Après, il va y avoir des jours où ça ne va pas et puis on va être un petit peu plus renfrogné.
C'est lié à notre humeur pour toi.
Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment un état de grâce. Ouais, c'est ça.
As-tu une icône de mode ?
Non.
Et quel conseil donnerais-tu à une fille qui n'assume pas son style ?
Que la vie est trop courte et qu'il ne faut pas se prendre la tête. Il faut vraiment faire, s'habiller comme on veut, mettre les choses qu'on a envie avec ce qu'on a envie. De toute façon, si pour nous, dans notre tête, on met des choses qu'on aime bien avec des choses qu'on aime bien, bah, ça ira très bien.
Et on sera élégante.
C'est ça, puisqu'on se sentira bien dans sa peau.
Merci Laure.
Merci Valérie.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.